Nous sommes lundi 13 novembre 2023. Bienvenue au journal en français du studio Kalangou. Je suis Rafika Taher au micro. À la une, un forum de paix s'est tenu ce week-end à Dokimana, dans le département de Sai. L'objectif est de ramener la paix entre les communautés de la zone. Comment prévenir le rhume chez les enfants, surtout en cette période de froid? Suivez les explications d'un pédiatre épidémiologiste dans ce journal. Et la partie magazine de ce soir va porter sur le problème des textes fonciers. Samedi 11 novembre 2023 s'est tenu à Dokimana, département de Sai, un forum de paix et cohésion sociale. Initié par l'association des ressortissants du village de Dokimana, ce forum a pour objectif de ramener la paix et la quiétude sociale intercommunautaire dans la zone confrontée à des conflits entre agriculteurs et éleveurs. Amadou Moumouni, président des ressortissants de Dokimana, donne des précisions sur le forum au micro de Soumana Amadou.
Nous avons voulu ce thème pour que les communautés se réunissent, que la coexistence pacifique entre les communautés soit un gage d'un développement durable. Mieux, nous avons même signé un acte d'engagement communautaire. Tous les acteurs ont signé et ont pris l'engagement de respecter cet acte sur la paix et la cohésion sociale. Quelques années en arrière, les éleveurs et les agriculteurs ne s'entendaient pas dans la zone de Dokimana, ce qui a démotivé les gens. Même le marché hebdomadaire n'est pas fréquenté. Vraiment, ça nous a donné à réfléchir. Et mieux, après cet engagement, cette signature-là, nous avons décidé de rouvrir le marché. Inch'Allah, à partir de ce jour, tous les samedis, les marchés hebdomadaires Dokimana va commencer à fonctionner, Inch'Allah.
De son côté, le chef du village de Dokimana s'est réjoui des décisions prises au cours de ce forum et s'engage à sensibiliser davantage ses administrés sur la culture de la paix. Écoutons Hamma Tahirou, chef de village de Dokimana, toujours au micro de Soumana Amadou.
Nous avons mis en avant la coexistence pacifique entre les communautés, notamment les agriculteurs et les éleveurs, parce qu'ils sont les principaux acteurs de la plupart des conflits en milieu rural. Nous avons signé ici un pacte entre les chefs traditionnels des villages agricoles et tous les responsables administratifs du département de Sai pour ramener la quiétude dans nos villages. Parce que nous avons pris conscience des méfaits des conflits intercommunautaires sur notre vie commune au point d'entraver l'animation de notre marché hebdomadaire. Aussi, nous appelons nos populations à ne pas se faire justice, car c'est la source même des conflits. Un jugement se fait toujours sur la base des règles préétablies. C'est pourquoi nous conseillons à nos administrés de circonscrire toujours les mésententes à la base avant qu'elles ne dégénèrent comme un incendie.
Depuis quelque temps, on remarque une respiration difficile chez les enfants à cause d'une nouvelle forme de rhume constatée depuis l'arrivée de cette session de froid. Fièvre, toux, gorge irritée, un malaise général et bien d'autres choses sont les symptômes qui rendent la vie précaire aux enfants. Docteur Tidjane Hadjaret Malam, pédiatre épidémiologiste, biostatistique, consultante à la clinique Abram, nous explique les moyens de prévention contre cette maladie au micro de Ismaël Amadou Harouna Djibo.
C'est vrai, c'est un sujet d'actualité aujourd'hui. Les centres de santé sont bondés des enfants qui souffrent des infections respiratoires et beaucoup de ces infections peuvent être prévenues. D'abord, il faut sensibiliser les mères à protéger leurs enfants. On commence d'abord par le bain. Les mères devraient éviter de donner le bain aux enfants dehors à l'air libre et habiller immédiatement les enfants. Éviter aussi de les exposer là où il y a la poussière quand il fait froid, éviter de les exposer dehors. Un dernier point, c'est qu'il faut aussi respecter les vaccinations parce qu'aujourd'hui, dans nos vaccinations, on a beaucoup de maladies évitables. Donc, si déjà par la vaccination, on peut éviter certaines maladies pulmonaires, c'est déjà un bon truc. Ça veut dire qu'elle devrait respecter cette vaccination.
La représentation régionale du ministère de l'Action humanitaire avec l'appui financier et technique de l'UNICEF a procédé à la remise des kits de plusieurs types aux populations de 5 communes de la région de Diffa, Meyne, Guesskérou, Chetimari, Diffa et Toumour le jeudi 9 novembre dans le cadre du plan de contingence aux éventuelles inondations. Suivant à ce propos, M. Niziru Abdou, responsable régional du ministère de l'Action humanitaire et gestion des catastrophes au micro de Guidi Abdraman.
Au total, on va mettre, sans compter ce qui a été déjà mis à la première mention, 325 kits NFI donc à la disposition de ces 5 communes. Maintenant, 64 kits abris à la disposition de ces 5 communes et 750 pelles pour les 5 communes, 750 dabas pour les 5 communes et 5000 sacs vides pour les communes. Donc maintenant, ces sacs vides et les pelles avec les dabas, ça va permettre quand il y a des inondations de renforcer les digues. Et maintenant, les kits abris et les kits NFI, ça va permettre maintenant d'apporter une première réponse aux sinistres. Donc on peut leur donner de l'assistance en kit NFI, en kit abri, pour qu'ils puissent maintenant avoir là où, avant que les partenaires viennent, la mairie apporte une première réponse. Et en gros, les kits qu'on avait réceptionnés, nous sommes en train de renforcer les collectivités territoriales qui sont les communes, à pouvoir prendre de l'avant, l'État à être devant pour quand même apporter des premières réponses.
5 ans après leur translocation de Kouré à Gadebeji, le nombre de girafes se multiplie. De 8. Nous comptons aujourd'hui 15 individus de la réserve de Gadebeji, département de Bermo, région de Maradi. Selon le conservateur de la réserve biosphère de Gadebeji, le colonel Sanoussi Danfatima, le lieu est très favorable pour cette espèce. Il est au micro de Adam Oumaru.
Dieu merci, au cours de ces deux dernières semaines, nous avons enregistré la naissance de jusqu'à 2 girafons. C'est parmi les girafes qui ont été transloquées ici en 2018 qu'une a mis bas. Elles sont au total 5 femelles et 3 mâles. À la date d'aujourd'hui, toutes les 5 femelles ont mis bas. Cela explique qu'elles se sont bien adaptées au milieu. Celle qui vient de mettre bas, c'est la première à avoir un girafon ici en 2021. Nous totalisons aujourd'hui 15 girafes, ce qui signifie que cette espèce est dans un milieu propice à son développement. Elles sont toutes en bonne santé et la population environnante apporte sa contribution dans la protection de ces girafes.
La situation des migrants africains refoulés de l'Algérie n'est pas rose. En effet, plusieurs migrants rencontrent d'énormes difficultés sur la route et même de la zone d'accueil. Notre correspondant à Arlit a rencontré un groupe de migrants nigériens composé de 50 personnes dont 11 femmes et 28 enfants. Qui a perdu un des leurs tombé malade pendant le trajet. Suivant à ce propos, M. Oumaru Rabiou, le représentant des refoulés nigériens, au micro de Ousmane Oumaru.
Nous sommes restés environ 2 mois à la devanture du centre de refoulés de l'OIM d'Arlit. Bien avant cela, des Nigériens et ceux d'autres nationalités ont été refoulés à Asamaka. Pour des raisons liées au manque de médicaments et autres problèmes, on nous a acheminés à Arlit. Environ 2 mois qu'on est resté là, les migrants nigériens n'ont pas eu accès au centre de refoulés. Ils ont pris nos noms et ceux des femmes qui étaient avec nous, mais nous n'avons pas eu accès au centre. Nous étions environ 25 hommes et 11 femmes avec des enfants. Certains ont 2, d'autres 3 enfants. Nous étions assoiffés, affamés. On nous avait dépouillés de tout au cours du trajet. Parmi nous, il y avait un qui souffrait de tuberculose. Finalement, il a rendu l'âme. Lorsque nous l'avions amené au centre de santé, c'était trop tard.
Depuis les sanctions imposées au Niger par la CEDEAO suite au coup d'État du 26 juillet, les cambistes de Gwani rencontrent des difficultés avec les banques de la place. Il s'agit des restrictions prises par les banques de limiter le plafond du montant à retirer. Écoutons les explications de Assoumane Chinkafale, membre du bureau de cambistes, au micro de notre envoyé spécial Habiba Ahmed.
La difficulté majeure que nous rencontrons, c'est les restrictions qui font les banques. Quand nous voulons faire des transactions, elles nous disent qu'elles n'ont pas d'argent ou nous ne pouvons pas avoir le montant souhaité. Ce qui fait que si vous voulez retirer, on peut vous limiter à 100 000 ou à 200 000 francs. La personne est obligée de faire avec ou procéder autrement. Par exemple, si vous vous comprenez avec quelqu'un qui est venu faire un versement, il peut vous permettre de faire un retrait versement. Sinon, ça ne va pas. Si l'État peut agir pour alléger la souffrance des populations.
La Fédération nigérienne de football a initié dimanche 12 novembre 2023 une formation à l'intention des journalistes sportifs nigériens sur les nouvelles lois de l'arbitrage moderne à la veille du démarrage de la Super League du Niger. Cette formation a été dirigée par 2 experts nigériens de la CAF et de la FIFA, Issac Aboubakar Niandou, secrétaire général de la Commission des arbitres du Niger, et Daouda Gomo, directeur de l'arbitrage nigérien. Slimane Mohamed, président de la commission communication marketing à la Fenifoot, nous fait le point de la formation au micro de Hassoumi Grouza.
Je rappelle que l'objectif général de cet atelier est de contribuer au renforcement des capacités des journalistes sportifs dans la couverture médiatique des matchs de football, améliorer les connaissances des amateurs du ballon rond sur les lois du jeu par le canal des médias. Il s'agit d'outiller donc les journalistes sportifs que vous êtes sur les lois du jeu nouvellement publiées par la FIFA, accroître les connaissances des journalistes sur le lexique de l'arbitrage et développer une collaboration entre la Commission centrale des arbitres et les journalistes sportifs pour la beauté et la réussite du football nigérien. Les résultats escomptés, c'est que les journalistes sportifs auront des connaissances renforcées sur les nouvelles lois du jeu, rehausser le niveau de l'arbitrage nigérien au plan national et international et une meilleure vulgarisation, appropriation des lois du jeu par le public, par le canal journaliste sportif. La fonction du journaliste est extrêmement importante. Comment elle peut déterminer parfois sur un mot, sur une virgule, la vie de toute une nation et mettre en péril des communautés.
Bien que le Niger soit doté d'un dispositif de gouvernance du foncier gage d'une avancée significative, il y a quelques difficultés relevées par certains acteurs qui interviennent dans ce domaine. C'est l'absence d'un texte de base unique. Pour le chef de canton de Badergoula, l'inexistence de ce texte en matière de gouvernance foncière au Niger ne facilite pas les choses. Écoutons Honorable Aboubakar Al-Fakey, chef de canton de Badergoula, au micro de notre reporter Tarnan Foudey Ahmed.
Les principales reproches faits à la législation du bien foncier de l'État est l'absence d'un texte de base unique qui fixe les principales règles de la domanialité. Cette législation est principalement constituée de textes dispersés suivants. Plusieurs textes coloniaux. Par exemple, le décret du 26 juillet 1932 portant réorganisation du régime de la propriété foncière en AOF, promulgué en AOF par arrêté numéro 837 AP 12 avril 1933 et de l'ordonnance numéro 59 113 PCN du 11 juillet 1959 portant réglementation des textes du domaine privé et de la République du Niger. Ici, le point de réforme. Ce texte doit être revu et modernisé, notamment en énonçant des critères à partir desquels on peut déterminer les statuts domaniaux d'un bien et revoir l'énumération qui a été faite en ajoutant d'autres types de biens évoqués par les textes plus récents. Par exemple, les champs de subsistance, là, c'est venu après.
Ces textes sont-ils en contradiction avec les textes nouveaux relatifs aux fonciers, notamment la loi 2010-29 sur le pastoralisme?
Tout à fait. Par exemple, l'ordonnance 93-015 du Code rural dispose que les terres réservées sont classées dans les domaines privés de l'État, en article 40, alors que la loi sur le pastoralisme dit qu'elles sont classées par décret dans les domaines publics de l'État, article 13. Vous voyez? Maintenant, l'ordonnance aussi 93-015 sur le Code rural dispose que les terres de restauration et de récupération rendues aptes à l'agriculture ou au pastoralisme peuvent faire l'objet d'appropriations privées par déclassement, alors que les terres pastorales, c'est-à-dire aires de pâturage, couloirs de passage, sont des ressources du domaine public définies comme telles par la loi.
Étant chef de canton, un acteur clé de la commission foncière de base, quelle est votre recommandation à ce niveau?
Je vois que c'est des copies-collées que nous sommes en train de faire des textes coloniaux. Là-bas, ils peut-être n'ont pas de chef traditionnel. Et ici, on sait les rôles que jouent les chefs traditionnels dans notre société. Je pense que par rapport à la commission de base, là, il n'y a pas de problème. Parce que là-bas, les textes sont clairs. C'est le chef du village ou le chef de canton qui est le président. Mais au niveau communal, c'est pas le chef de canton. C'est là où vraiment on doit revoir ça. Parce que nous, on connaît nos réalités. On sait qui peut parler et que tout le monde va respecter.
Nous sommes au terme de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, place au Tamashek, suivi des autres éditions en langue nationale.
Tous les jours, écoutez les programmes du studio Kalangu sur les ondes de nos radios partenaires.
Et sur WhatsApp au 80 06 88 54 à partir de 17h.
N'oubliez pas nos rendez-vous hebdomadaires.
Lundi, nous abordons une question de droit dans la partie magazine.
Mardi, suivez le magazine Bien-être à la fin des journaux et le forum Espace Femmes à 18h15.
Ne manquez pas le forum de la presse du vendredi pour le décryptage de l'actualité de la semaine.
Samedi et dimanche, place à l'actu des jeunes à partir de 17h, suivi de Tous à la Fada.
Et Studio Kalangu au rythme du Niger.